Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique, comme toujours, et à la réalisation, mon complice Léo et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui trois personnes de l'association Ardès. On dira tout à l'heure ce que cela veut dire Ardès. Je reçois son président, Monsieur Ludovic Grimat, le trésorier, c'est important dans une association, toujours les finances, donc Alain Rouquier, et une adhérente, Amandine Cuny, qui est directrice d'une association sur Tournefeuille, donc dans la banlieue toulousaine, une association qui gère l'aide à domicile, le maintien à domicile, d'ailleurs assez sympathique, c'est mieux de rester chez vous, c'est mieux chez vous, et donc cette association aide les familles face au handicap ou à la maladie. On reviendra sur cela. Créé en 1974, l'Ardès fête son 50e anniversaire. Monsieur Grimat, monsieur le président, vous êtes un homme mature, 50 ans. Alors dites-nous ce que c'est que l'Ardès.
Alors, bonjour. Oui, donc l'Ardès, donc c'est une association de directeurs, de directrices, directeurs ou de directrices générales. Ainsi que de directeur adjoint, directrice adjointe.
Et vous adressez plutôt au cadre dirigeant du secteur associatif.
Voilà, secteur social, médico-social, sanitaire et insertion par l'économique.
Et dans l'insertion par l'économique, ce sont les ESAT, les entreprises adaptées, c'est aussi les centres de formation.
Oui, également, et c'est aussi les entreprises d'insertion.
Et les entreprises d'insertion. 50 ans, vous avez prévu de faire la fête, monsieur le président.
Tout à fait, c'est le bel âge. Je dis ça parce que j'ai la cinquantaine.
Et alors, qu'est-ce qui est prévu comme festivité pour ces 50 ans ?
Alors, avant de faire la fête, oui, parce qu'on est quand même aussi des gens sérieux, même si le terreau de l'Ardès, c'est la convivialité entre dirigeants. On a prévu de faire un colloque où il y aura donc au tout début deux anciens présidents.
Alors vous l'avez prévu à quelle date ? Important pour nos auditeurs.
On l'a prévu le vendredi 14 juin.
14 juin, donc
à Montpellier.
À Montpellier.
Dans un très beau domaine qui s'appelle le domaine du Grand Puy.
Voilà. Et donc vous allez réunir l'ensemble de vos partenaires, l'ensemble de vos adhérents.
Voilà, on attend
le colloque et bien entendu de la festivité. Alors vous me disiez le colloque.
Oui, on attend environ une centaine de personnes. Et donc ce colloque, donc la matinée au tout début, donc il va y avoir l'intervention d'anciens présidents de l'Ardès qui vont un peu nous parler de comment c'était avant un peu.
Avant c'était mais, mieux.
Est-ce que vous dire on verra, ça, je sais pas.
Est-ce que vous pouvez nous dire l'histoire, Monsieur Grimat, l'histoire de cette association créée en 1974? Pourquoi? Quelle était la motivation de plus anciens, des directeurs, directrices?
Ben, disons que la motivation, c'était à l'époque, il y avait très peu de grosses associations. Et donc, il y avait beaucoup de petites associations
qui avaient mal à se retrouver ensemble.
Voilà. Et donc, souvent, ces cadres dirigeants étaient isolés. Et donc, c'était aussi pour se sentir moins isolé, s'entraider, se retrouver aussi pour décompresser. Donc, voilà comment est née l'Ardès dans la région... Est de
l'Occitanie, ce qu'on appelait le Languedoc-Roussillon.
Voilà, et plus précisément dans le Gard et l'Hérault, entre Nîmes et Montpellier.
Vous dites association régionale, ça veut dire qu'il y a une association ensuite, vous vous regroupez dans quelque chose peut-être national. Est-ce qu'il y a d'autres associations régionales dans notre pays ?
Alors régionale, à ma connaissance, en Occitanie, il y a le GRDI. Avec qui nous avons aussi des liens.
Des relations.
Et il existe aussi l'association nationale, l'ADC, avec qui aussi nous avons une charte avec eux.
D'accord, et vous travaillez ensemble, vous partagez le projet. Monsieur Alain Rouquier, vous qui êtes le trésorier, vous, comment vous financez votre association? Est-ce que j'imagine qu'il y a aussi des prestations de formation? Comment vous faites pour faire vivre?
Alors, l'association vit des cotisations de ses adhérents, principalement. Elle vit parfois de subventions quand on organise des actions particulières. Par exemple, pour les 50 ans, on aura des stands qui seront présents de collectivités ou de partenaires mutualistes, etc. Donc là, on peut avoir un appui financier occasionnel. Et puis, on propose effectivement aux adhérents des services et notamment des formations, trois formations dans l'année qui nous permettent aussi de rémunérer correctement les formateurs et d'avoir une partie de recettes qui sert au fonctionnement de l'association.
Qui sert au fonctionnement de
l'association. Nous avons une centaine d'adhérents en Occitanie, 103 pour être précis. C'est un volume assez régulier de l'association. Il y a quelques années avec un petit peu moins, parfois plus, mais depuis une dizaine d'années, c'est un chiffre qui est constant.
Et vous démarchez par exemple les associations pour dire à des collègues, adhérez, ne restez pas tout seul, c'est important de se retrouver. Alors, vous faites une démarche, je veux dire, commerciale sur les idées.
Alors, on fait savoir ce que
nous savons. Il y a commerce des idées, c'est ça.
Nous faisons savoir ce que nous savons faire, notamment voilà, nous retrouver, avoir des espaces de partage, avoir des espaces de formation, aussi avoir des espaces parfois de soutien des directrices et des directeurs qui peuvent en avoir besoin. Et nous avons la possibilité d'avoir un chargé de communication à mi-temps sur l'association depuis, c'est la même personne depuis une dizaine d'années maintenant, qui par les divers canaux de communication, soit classique,
donc
papier,
vous êtes présent,
soit numérique.
Vous avez un site internet.
Un site internet, un compte.
Vous allez visiter, on y reviendra. Vous êtes présent dans les réseaux.
Réseaux sociaux,
et
professionnels.
Et donc vous communiquez régulièrement avec l'ensemble, pourrait-on dire, de la profession.
Et nous faisons aussi des réunions géographiques par bassin, par territoire, on va dire, pour être au plus près des adhérents. Donc, c'est souvent des binômes de départements, parce que 13 départements en Occitanie, c'est une vaste couverture,
une grande région,
Où nous invitons des adhérents ou des sympathisants pour faire connaître l'Ardèche. On était vendredi dernier du côté de Rium, accueilli par une association qui s'appelle la JH, et on était une dizaine de personnes, dont des sympathisants qui peut-être adhéreront et pourront participer aussi au projet de l'association et aux actions de l'association, pas seulement comme consommateurs de services, mais aussi comme force de proposition.
Monsieur Grimard, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter que depuis la réforme Calliope, nous ne sommes plus, hélas, centre de formation, mais grâce à nos adhérents, certains centres de formation qui portent les formations, grâce à eux, nous pouvons continuer.
Donc vous avez une politique de partenariat. Vous travaillez avec quel centre de formation? C'est l'occasion de faire un peu de publicité,
alors,
c'est pas interdit.
Alors sur Toulouse, on travaille avec l'IFRAS. Après, à côté de Castelnaudary, on travaille avec la Robatière. On travaille aussi avec l'IRTS de Montpellier.
Et l'IRTS de Lozère.
Oui, donc voilà. Vous prenez l'ensemble, pourrait-on dire, des centres de formation. Il y en a d'autres, mais vous n'êtes pas dans l'exclusion. Vous êtes prêt à travailler avec tout le monde s'il y a des partenariats qui s'ouvrent. Madame Amandine Cuny, pourquoi vous avez adhéré à l'ARDES, jeune directrice aujourd'hui à l'association donc d'aide et de maintien à domicile sur Tournefeuille?
Alors, moi, j'ai adhéré à l'association il y a à peu près un an. Jeune directrice, voilà, je voulais me sentir un peu soutenue, parce qu'en tant que jeune cadre médico-social, on se sent souvent seul. Et voilà, il était pour moi important de trouver une association, trouver du lien, trouver vraiment du partage. Et c'est ce que j'ai trouvé dans...
Et au bout d'un an d'activité ou d'adhésion à cette association, vous trouvez votre compte dans...
Bah oui, regardez, je suis là aujourd'hui. Donc, oui,
le président vous a sollicité pour venir témoigner?
Oui, il m'a sollicité, j'ai répondu immédiatement.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre association, ce qu'elle représente sur le secteur de Tournefeuille, ce que vous faites exactement avec les salariés?
D'accord. Alors, donc voilà, je suis directrice remplaçante de l'association AGA. Aide et maintien à domicile, qui a été créé il y a à peu près en 2010. Donc, nous sommes vraiment force d'expérience sur le secteur social, accompagnement sur mesure tant de la personne âgée que la personne en situation de handicap, enfants, adultes. Donc, voilà. Après, on intervient beaucoup sur ce public, avec aussi du soutien, de l'accompagnement, de l'hygiène, mais aussi nous sommes.
Alors, vous avez des jeunes et des adultes?
Oui.
Dans l'accompagnement du handicap.
Oui, tout à fait. Avec les salariés, il y a des auxiliaires de vie, mais également des moniteurs éducateurs. Donc, il y a vraiment une richesse au niveau de l'accompagnement et de la maison de répit où il y a des activités.
Combien de salariés dans votre...
Une dizaine.
Salariés temps plein, quoi.
Une dizaine.
Une dizaine.
Voilà, la force d'AGA, c'est vraiment de travailler sur du temps plein.
Monsieur le Président, Monsieur Ludovic Grimat, si on essaie d'avoir la cartographie de vos adhérents, ce sont des associations dites moyennes, de petites associations, 10, 15, 20 salariés, où vous avez à peu près tout ce qui se fait ou représente dans le secteur?
Alors, on est plutôt une petite association puisque nous avons un seul salarié qui est là depuis 11 ans.
Oui, mais ceux qui adhèrent.
Alors, ceux qui adhèrent...
La cartographie de vos adhérents.
Alors, au niveau des adhérents, c'est vrai qu'on est, assez important dans la région puisqu'on est 103 adhérents. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'ADC, qui est une association adhérente, ils sont environ 200 au niveau national.
Au niveau national.
Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau régional, on a quand même pas mal
donc
de
poids. Donc, vous avez du poids, quoi.
On a du poids,
dire. Vous avez du poids.
Ouais. Alors, on est beaucoup plus connu dans l'ex... Languedoc-Roussillon, parce que l'association donc est née il y a 50 ans là-bas, et c'est que depuis que les deux régions se sont regroupées que maintenant le but c'est de se faire connaître dans l'ex-Midi-Pyrénées.
Voilà. Vous avez lancé dans votre projet associatif, j'ai lu attentivement et j'ai repris quelques axes, pourrait-on dire, ou quelques points, quelques missions, en tout cas des missions que vous souhaitez mener à bien, en disant l'Ardès, nous souhaitons être un lieu de ressources. Monsieur Rouquier, Alain Rouquier, ça veut dire quoi un lieu de ressources? De ressources humaines, vous participez aussi au recrutement, de ressources pour répondre par exemple aux appels à projets et vous donner un coup de main, des ressources de bibliothèque, j'imagine, documentation, c'est quoi lieu de ressources?
Alors, ça peut être différent en fonction des départements. Par exemple, dans le département du Gard, l'Ardès est représentée au sein de la MDPH.
Et donc, alors, la MDPH, dites-nous ce que
c'est. Maison départementale en faveur des personnes en situation de handicap.
Donc, vous êtes présent et vous êtes légitime.
Acteur, parce que réseau de directrices et de directeurs importants dans ce département-là, qui est un département historique, comme disait Ludovic. Donc, on est sollicité et on participe de la politique mise en place par la MDPH dans ce département. Après, sur le lieu ressources, c'est aussi un lieu où, entre adhérents qui vont travailler dans un même secteur d'activité, ils vont pouvoir se retrouver, échanger leurs coordonnées et travailler ensemble, soit en partenariat inter-établissement, soit en échange de pratiques professionnelles. Ce qui est important de dire, c'est que dans l'association, nous avons donc des adhérents pratiquement dans tous les départements d'Occitanie, et nous avons aussi tous les secteurs et tous les types d'établissements ou de services représentés. Et sur votre question de tout à l'heure par rapport à la taille des associations ou des établissements, on a des petits établissements, on a des directions au sein d'associations beaucoup plus importantes. Donc voilà, il y a vraiment un mix qui est représentatif du secteur médico-social aujourd'hui. Donc la ressource, c'est aussi de mettre en commun les services qu'on peut proposer. On a débuté, par exemple, là, sur ce début d'année 2024, des groupes d'analyse de la pratique professionnelle pour les directrices et directeurs et autres cadres.
Et donc, vous
et nous, nous
organisez. Vous organisez avec des professionnels qui aident à l'analyse.
Et on propose ce service pratique aux adhérents qui le souhaitent et qui s'en saisissent. Voilà. D'autres services, on a l'association historiquement a toujours pu, enfin des membres de l'association venir en soutien à des collègues qui pouvaient se retrouver à un moment donné dans une surcharge de travail. Vous aviez assisté il y a 2 ans et demi à notre journée à Toulouse sur.
Vous aviez fait une journée très belle journée.
La qualité de vie au travail des directrices et des directeurs, puisque eux pensent à la qualité de vie des salariés, mais qui pensent à la leur. Donc ça c'était un élément.
Et c'est vrai
débat.
Que la santé des des cadres dirigeants, personne ne s'en préoccupe. Hein. Pourrait-on alors, dire hein.
Nous, y compris
la médecine du travail.
Nous essayons.
Un petit coup de griffe. Peut-être alors, il existe, la médecine du travail.
Il existe quand même des services, mais c'est vrai que cette mise en relation directe entre les dirigeants et les services concernés avait peut-être un petit peu besoin d'être soutenue. Donc, on a essayé de le réaliser depuis 2 ans et on a un partenariat avec le laboratoire Amaroc qui dépend de l'université Paul Valéry à Montpellier, qui met à disposition des.
Il y a un enseignant-chercheur de grande qualité, me semble-t-il, hein, qui intervient dans toutes ces recherches. Vous me le direz tout à l'heure.
Si oui, Monsieur Torres. Monsieur Torres. Voilà. Et donc, ce laboratoire propose au service de santé au travail des départements de France, dans les 90 départements, propose un outil d'auto-évaluation pour les dirigeants de leurs éventuelles difficultés. Et en fonction des éléments amenés par chacune et chacun, il y a la possibilité d'être soutenu, d'entrer en contact avec une écoute professionnelle type psychologue. Donc, nous avons avec eux, réussi à trouver un partenariat pour mettre à disposition directement ce service auprès des adhérents, même s'ils ne relèvent pas tous du même service de santé au travail, puisqu'ils sont dans une dizaine de départements d'Occitanie.
Vous dites également dans votre projet lieu d'innovation. Alors vous innovez dans quoi ? Parce que l'innovation, c'est pas de l'innovation technologique, peut-être, Monsieur le Président, Monsieur Grimat. C'est quoi lieu d'innovation ?
Disons que c'est un lieu de...
Innovation sociale, j'imagine.
Tout à fait. C'est un lieu d'échange où, entre professionnels, on se retrouve aussi pour partager non seulement nos expériences de terrain, mais pour essayer aussi de réfléchir à comment mieux travailler avec nos publics. Voilà un peu pourquoi on appelle ça des lieux d'innovation, où on peut aussi faire intervenir, comme on avait fait il y a 2 ans lors d'une conférence, un ancien directeur général qui nous parlait justement de l'innovation dans le secteur.
Autre chose qui est assez intéressant, mais qui la formulation me semble problématique. Il faut promouvoir l'image positive de la fonction de direction. Ça veut dire que les directeurs, ce sont des méchants garçons et des méchantes filles. Ça veut dire quoi, promouvoir une image positive ? Qui peut répondre, la jeune directrice, Amandine Cuny, est-ce que vous pensez qu'il faut donner une bonne image de la fonction de direction ou on est encore des affreux jojo dans le... Ça veut dire quoi, cette fonction positive de la direction ? Peut-être Alain Rouquet ?
Moi, je dirais des métiers de direction et des métiers du social et du lien. Et puisque dans notre société, souvent, ces métiers sont sous les radars, ne sont pas reconnus à la hauteur de ce qu'ils amènent à la société, aux personnes accompagnées. Après, sur les directeurs, ce sont les directrices, ce sont des capitaines, masculins ou féminins, de bateaux, qui doivent à la fois tenir la barre, donner un cap, être capables de venir en soutien aux équipes. Et donc l'image positive, c'est celle-là, c'est la fonction de direction pleine et entière, qui n'est pas que gestionnaire, qui est aussi une fonction de travailleur social et de travailleuse sociale. Et donc c'est ça aussi la question de l'image de direction et de l'identité de direction que nous défendons à l'ARDES.
En 50 ans, est-ce que vous avez vu une évolution sur les jeunes directeurs qui arrivent, les jeunes directrices, les jeunes directeurs et plutôt les anciens? Est-ce qu'il y a une façon d'incarner cette fonction de direction? Est-ce que vous observez il y a un changement ou pas? Alors on pourrait dire que c'est assez constant.
Oui, tout à fait. Il y a quand même un changement, puisqu'à l'époque, quand l'ARDES s'est créé, c'était la veille des lois de 75. Et depuis, bon, il y a eu les lois de 2002, puis toutes les autres après. La société a évolué, a changé, et c'est vrai que le métier de directeur a changé lui aussi. On a vu apparaître des grosses associations avec des pôles, des directeurs de pôles qui n'existaient pas avant. Donc c'est vrai que ça a changé. Et justement, actuellement, on réfléchit pour savoir s'il faut pas remettre un peu plus de directeurs au plus près des professionnels sur le terrain. Et des usagers.
Des directeurs ou des cadres, ou de cadres dirigeants, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Oui. Pas simplement.
Ou des directeurs adjoints.
Ou directeurs adjoints, pas simplement de cadres ou de coordonnateurs, etc., qui ont plus la tendance. Vous, Amandine Cuny, votre fonction de direction, comment vous l'incarnez? Vous êtes donc un an, vous êtes diplômé de la prestigieuse université de Toulousaine, un master. D'abord, Comment vous est venue l'idée d'être directrice? J'imagine qu'on ne se lève pas un matin en disant « j'ai envie d'être directrice ».
Alors, le métier de directrice, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai commencé avec un BEP dans le social, donc il y a toute la progression qui vient avec. Après, ça fait toute jeune directrice, mais ça fait quand même 4-5 ans que je suis en fonction de cadre. Et pour moi, il est important de conjuguer le management avec la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés, mais aussi le bien-être des usagers. Donc il y a vraiment une combinaison à faire, tout en ayant bien entendu le pilotage, tout ce qui est gestion administrative, financière, juridique. Donc c'est vraiment un mélange qui est quand même assez intense, mais très enrichissant.
Les salariés vous suivent, vous n'avez pas de conflit dans votre association ou de tensions particulières, parce qu'on parlera tout à l'heure de l'attractivité des métiers, des difficultés de recrutement. Vous n'avez pas trop de difficultés sur le territoire toulousain pour avoir de la main-d'œuvre de qualité?
Il y en a, oui, bien sûr, comme dans chaque association et lieu sur Toulouse, principalement. Mais là, pour le moment, nous sommes une équipe soudée, présente depuis certaines personnes depuis une dizaine d'années. Donc, dans le secteur, le service à la personne, c'est quand même important. Donc, non, c'est vrai que l'association AGA et Patricia Migal, la directrice et fondatrice, a vraiment un très fort attrait pour tout ça.
Écoutez, avant d'aller plus loin avec l'Ardès et fêter votre 50e anniversaire, je vous propose d'écouter une grande dame, une diva, Barbara.
Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pourtant, de beauté, mère, si et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses prunes éclatées, tous ses lilas blancs, et ses groseilles rouges et ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant ont fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas, mais pourtant de beauté, mère, si et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là, cueillons-les sans rien dire, va, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu ou celle du malin qui un jour s'unissant croise nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas, mais pour cet amour-là, mère, si et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, mère, si et chapeau bas.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec mes invités, M. Grimat, M. Rouquier, Mme Cuny, Ardès et l'association de soutien à domicile, association régionale des directrices et directeurs de l'économie sociale et solidaire. On s'est quitté en disant on doit parler de l'attractivité des métiers, des recrutements. Et vous, Madame Amandine Cuny, vous avez dit pas de problème, on a une équipe bien solide, tant mieux. Et il faut la préserver. Est-ce que vous avez des demandes, Monsieur Rouquier, de vos adhérents pour aborder les questions dites sociales? Est-ce qu'il y a des séminaires particuliers sur ces problèmes-là, droit social, pratique des CSE? ou toute autre formation autour du droit social. Est-ce qu'il y a des conflits, gestion de conflits, par exemple ? Dites-moi.
Alors, dans les formations que nous organisons, que nous appelons les vendredis de l'Ardèce, puisqu'ils ont, ces formations ont lieu le vendredi, qu'on essaie de déployer de manière équilibrée sur le territoire pour à la fois toucher des gens de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, il y a deux incontournables qui reviennent tous les ans, qui sont une formation sur le droit du travail, la
législation. Le droit du travail, ça revient,
oui,
quoi.
Tous les ans, avec une actualisation de tous les textes qui sortent. Et qui permettent donc aux adhérents qui participent à ces formations, avec une avocate, d'échanger sur à la fois les textes, l'esprit des textes, la jurisprudence et la manière dont ça peut se passer dans les associations, dans les établissements, dans les services. La deuxième thématique incontournable, c'est la gestion comptable et financière des établissements et des services.
Donc ça veut dire qu'il y a toujours une mise à niveau, non ? C'est ça ?
Les lois de finances passent, actualisent des choses et nous, on arrive toujours avec une formation qui reprend les éléments. Et là, c'est un expert comptable qui propose son expertise et des textes et de la documentation et là aussi des interprétations ou des avis sur le sujet. Et puis le troisième vendredi de l'Ardèce, il est consacré plutôt à des thématiques sur lesquelles les membres du conseil d'administration voient qu'il y a un besoin. Donc là, pour cette année, au mois de novembre, il y aura un vendredi de l'Ardèce sur le dossier unique informatisé de l'usager. Puisque le numérique
prend une place de plus en plus importante, prépondérante,
bouleverse beaucoup de choses dans toutes nos vies. Hein, on a tous quelque chose dans la main, là, une espèce de doudou, un fil à la patte où on est connecté avec le monde entier. Donc les établissements et services médico-sociaux et sociaux ne sont pas épargnés par cela. Et donc aussi comme outil professionnel pour les équipes sur les accompagnements et les parcours des personnes accueillies et accompagnées. Voilà, on projette aussi de faire une journée thématique sur la laïcité, soit fin 2024, soit début 2025, parce que voilà, c'est une
demande,
une thématique,
une thématique
dont l'actualité
récurrente dans les établissements.
Tout à fait, et il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui pour former les professionnels, donc on fera appel à ces dispositifs.
Et sur la qualité, est-ce que vous avez, étant donné que beaucoup d'associations, beaucoup d'établissements vont passer par les fourches caudines de la Haute Autorité de la Santé pour l'évaluation de la qualité, Monsieur le Président, Monsieur Grimat.
Alors, justement,
vous faites des formations aussi ou des informations.
Oui, justement, l'an dernier, on a fait intervenir Monsieur Schkoun, qui est un professionnel justement qui fait l'évaluation externe et donc qui a fait une intervention auprès de nos adhérents pendant une journée pour nous expliquer un peu les nouvelles modalités
sur l'évaluation,
entendu,
sur l'évaluation avec les points impératifs, etc. C'est quand même un dossier très lourd pour les directeurs, pourrait-on dire un peu directeurs, directrices couteau suisse, que j'appelle moi, c'est-à-dire ceux et celles qui ont des petites structures et qui doivent tout faire. Ça doit être assez compliqué. Madame Cuny, comment vous allez faire pour l'évaluation de votre association? Parce que là, c'est une charge supplémentaire de travail qui vient au quotidien de votre de direction, j'imagine.
Et tout à fait. Donc, on y travaille. On y travaille. Et après, je vais prendre appui hein, sur l'adresse pour avoir des informations et pour continuer ce chemin avec moi.
Parce que c'est très lourd, là. Hein. Vous m'avez dit, Monsieur Rouquier, qu'il y avait... vous deviez aborder la question de la laïcité. Est-ce qu'il y a une thématique autour de l'éthique dans les pratiques professionnelles? Est-ce que c'est aussi une préoccupation du secteur ou de vos directeurs et directrices?
Mais lors du dernier groupe de travail qui a préparé la journée des 50 ans... qu'on a intitulé quand même de manière assez provocatrice, hein, un demi-siècle, l'Ardèce, un demi-siècle de service pour les cadres dirigeants du secteur, stop ou encore. Voilà. Donc, il y a des cadres dirigeants qui ont à faire face à des injonctions paradoxales, comme on dit, c'est-à-dire d'un côté, vous devez garantir les moyens pour que la bientraitance soit présente dans tous les établissements et services, et d'un autre côté, il peut exister des financeurs qui souhaitent des mutualisations, réduisent ou optimisent des moyens, et donc, sur le temps pris pour réaliser des expertises et de la bientraitance et des accompagnements de la meilleure qualité possible. Est-ce que les deux injonctions vont dans le même sens ? Parfois, elles partent dans des sens un petit peu opposés. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir aussi rassembler, avoir du réseau et peser sur les pouvoirs publics.
Sur les politiques publiques.
Sur les politiques publiques au niveau régional, au niveau départemental, voir ce qui se passe dans des départements qui sont des actions positives, peut-être pouvoir les promouvoir dans d'autres départements. On sait que tous les départements n'ont pas les mêmes ressources quand il s'agit de tarifer des établissements et des services, mais la question, l'usager, la personne accompagnée, qu'elle soit en Lozère ou dans le Gers, elle a le droit à accéder à un certain nombre de droits, de prestations, de services, et les directrices, directeurs doivent garantir cet égal accès. Et donc, voilà, on va essayer, je pense, dans les années qui viennent, de promouvoir davantage les bonnes pratiques
des tarificateurs. Directeur ou directrice, vous êtes en train de dire, il est sur le fil du rasoir. Hein. On pourrait dire que ce métier, c'est ça le métier de direction aujourd'hui, avec l'ensemble
et le rasoir des politiques. Et la lame de rasoir peut être coupante. Oui. Donc oui, et je crois que depuis le Covid, on observe dans tous les secteurs d'activité, mais nous on le voit particulièrement dans le nôtre, un rapport au travail qui a changé, des exigences de qualité dans les accompagnements qui sont aussi posées par les directrices et les directeurs qui nous rejoignent. C'était le cas de leurs prédécesseurs, mais peut-être avec davantage de moyens. Donc aujourd'hui, il y a moins de moyens, mais il y a une même exigence de qualité dans la fonction de direction.
Alors,
donc,
abordons ces questions d'attractivité de métier, la formation dans les écoles. Est-ce que les écoles se sont préparées dans la formation de moniteurs éducateurs, d'éducateurs spécialisés, dans les formations de Master 1, Master 2, CAFE RUIS, le CAFDES, les diplômes qui font référence. Est-ce qu'elles se sont adaptées aux besoins nouveaux des salariés ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en phase et quand un jeune directeur ou une jeune directrice arrive dans le secteur, il est outillé pour pouvoir réussir une belle carrière, pourrait-on dire.
Alors, on a la chance d'avoir des directeurs de centres de formation parmi nos adhérents. Et eux, déjà, ce qu'ils trouvent de compliqué, c'est Parcoursup, puisque maintenant, avec Parcoursup, pour eux, c'est plutôt un inconvénient, puisqu'ils voient arriver des étudiants qui
ont fait des choix, mais par défaut, peut-être.
Par défaut,
c'est
voilà,
ça que vous voulez dire.
Qui font des choix par défaut, alors qu'avant, c'était plus des choix par vocation, par envie. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des étudiants qui ont envie, il y a aussi des étudiants qui ont envie, mais on voit aussi qu'il y a des étudiants qui y vont par second choix. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, et même eux ont un problème d'attractivité, puisque les trois centres de formation toulousains qui proposent des formations de moniteurs éducateurs n'étaient pas pleines cette année.
D'accord. Donc des difficultés déjà pour attirer, donc bien entendu ensuite pour les diplômés. Pour le recrutement, Monsieur Ruquier, est-ce que les associations, vos directeurs et directrices adhérentes vous disent oui, nous avons des difficultés. Avant, on avait 10, 15, 20 CV. Aujourd'hui, on a 2 ou 3 CV. Non, c'est ça la pratique ou pas ?
Oui,
ou c'est du mythe.
Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a rien de et les rapports qui ont pu être écrits depuis le Covid. Je pense notamment en 2022 au rapport du Conseil économique, social et environnemental sur les métiers de la cohésion sociale mettaient dans leurs 3 priorités la question du sens au métier du secteur, la question de du renforcement de la formation continue et de l'augmentation des salaires. Ça, c'était les 3. Trois axes forts de proposition de ce rapport du CESE. Et le deuxième rapport qui est sorti en 2023, qui est celui du Haut Conseil en Travail Social, et pour le coup, l'Ardèche était représentée, puisqu'on a une vice-présidente, Virginie Édouard, qui est vice-présidente dans le Gard, et qui, de par ses fonctions professionnelles et syndicales, puisqu'elle a la CGE-CGC, a participé à l'élaboration de ce rapport. Et donc, de la même manière, ces rapports mettent en avant une question de qualité de vie au travail, de rémunération du travail, de sens et de simplification du parcours des personnes accompagnées. Aujourd'hui, on a des ingénieurs, que ce soit des éducateurs spécialisés, des chefs de service ou des directeurs. Ils doivent composer avec une myriade de structures, de financeurs, de partenaires qui fonctionnent avec des règles différentes, des calendriers différents, des cultures différentes. Et eux, doivent articuler tout ça pour faire en sorte que les accompagnements sur le terrain se réalisent. Donc, il y a aussi une lisibilité du travail social qui est importante à mettre en avant, à la fois par son utilité. Hein, on a applaudi les soignants pendant le Covid, etc. Les établissements sociaux et médico-sociaux sont restés ouverts, ont accueilli les personnes, ont fait des efforts considérables. Nous pensions à l'époque, dans un élan de solidarité, que tout
allait, et de générosité
que ça allait se déclencher et que des réformes au sens noble allaient venir, comme par exemple une nouvelle grande loi sur l'action sociale et médico-sociale. Ce n'est pas le cas. La loi Grand Âge a reculé et n'est toujours pas arrivée.
Alors oui, alors j'ai vu quand même que la ministre vient de débloquer 650 millions d'euros pour les EHPAD publics, il y a une trésorerie. Alors, il me semble que beaucoup de fédérations, beaucoup de professionnels avaient alerté une fois, deux fois, trois fois, en disant attention, des communiqués de presse, attention, il y a des difficultés de trésorerie, attention, il y a en effet des difficultés liées à l'inflation. Et là, la puissance publique semblait sourde, et là, une augmentation de 4,5%. On a l'impression qu'on trouve que c'est 650 millions, c'est énorme, alors que c'est grosso modo, pourrait-on dire, dans la moyenne, parce que jusqu'à présent, on faisait 5% d'augmentation. Monsieur le Président, par rapport à ça, est-ce que vous menez, y compris des actions de genre militante politique, en disant « ce n'est pas possible, le secteur doit évoluer correctement ». Et puis, la loi Grand Âge a été aujourd'hui oubliée, où on n'attend pas de loi programmatique. Aucune loi programmatique. Oui, Monsieur le Président.
Justement, ben, c'était lors de nos échanges vendredi dernier sur IUM, on parlait de ça, on parlait du sens, on parlait des moyens qu'on n'a pas. Il y a 85% de maisons de retraite en France qui sont en déficit.
C'est énorme. Hein.
C'est énorme. C'est pour ça que ça nous questionne. Et justement, le thème de la journée des 50 ans, si on regarde bien l'affiche avec la flèche, on regarde, on ne sait pas trop où on va, dans quel sens on va, qu'est-ce qu'on fait, que nous demandent les pouvoirs publics. Parce que d'un côté, ils nous demandent de faire plein de choses et de l'autre côté, ils nous demandent moins de moyens. Et c'est vrai que les collègues croulent sous les charges de travail. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a mis en place une prévention avec Amaroc au burn-out. Parce que ils ont de plus en plus de...
Vous observez que de plus en plus de dirigeants sont réellement fatigués. Il y a une fatigue des élites.
Il y a beaucoup de fatigue. Ils ont de plus en plus de travail et ils arrivent de moins en moins à venir à l'Ardèche aussi. C'est compliqué pour eux.
Ils ne peuvent pas quitter leur établissement tellement il y a des urgences. C'est ça que vous observez.
Il y a beaucoup trop d'urgences pour eux et ils sont vraiment...
Pour parler de l'attractivité des métiers, des salaires, j'ai vu quand même dans votre... C'est peut-être une critique, vous verrez si président, monsieur Alain Rouquet, j'ai vu un communiqué de presse de 2021 où vous parliez des salaires dans votre site internet de l'Ardèche. Et depuis, vous ne parlez plus de salaire. Alors, ça veut dire quoi? Les oubliés du Ségur, les exclus du Ségur, il n'y en a plus. Vous dites, allez, au même mouchoir dans cette affaire. Quelle est votre position en tant qu'association dans la défense des salariés sur cette question du Ségur pour tous? Et notamment, il y a eu sur Nexem, on avait oublié les cadres. Quoi. Alors là, qu'un syndicat d'employeurs oublie ses cadres, c'est les forces vives de la nation quand même. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette question?
Sur toutes les actions qui ont eu lieu en 2021-2022 par les différentes fédérations d'employeurs.
Vous les avez soutenues?
Nous les avons soutenues, nous avons participé, nous avons relayé, nous avons approuvé les messages. On a eu aussi entre nous parfois des échanges. Moi, je peux vous donner ma position personnelle de cadre ou de citoyen. On aurait dû tout simplement augmenter les points des conventions collectives pour que à tous les étages de tous les établissements et services, en fonction de toutes les fonctions qui sont utiles in fine aux personnes accompagnées et accueillies, une augmentation réelle soit ressentie. Et donc, cette logique du Ségur où on fait une sorte de mauvais tri, bien sûr qu'on a été très, très opposé à ça.
On a fait partie du communiqué de presse avec d'autres organisations, hein, puisqu'on avait, on nous avait demandé si on pouvait mettre le logo. Notre
voilà, si
logo.
Vous étiez signataire.
On a été signataire
de cette
lettre au préfet. Ouais.
Voilà. Et la convention unique étendue, vous qui 50 ans d'expérience, va-t-on arriver à cette convention? Les négociations sont bloquées. Que pensent les directeurs? Que vous disent les directeurs et directrices? Écoute, parce qu'on dit que la vérité vient du terrain. Que disent les gens sur le terrain, écoutez, par rapport à ça?
C'est un peu l'arlésienne, j'ai l'impression. Si vous voulez, moi, depuis que j'ai commencé à travailler dans le social, j'en entends parler.
Moi aussi.
Ça date des années 90, fin 90, et voilà, donc on verra. On verra, peut-être qu'un jour ça va arriver, mais je suis sceptique.
Vous n'êtes pas très enthousiaste.
Non, je suis sceptique.
Monsieur Ruquet, vous non plus pas très enthousiaste sur cela. Ah, vous êtes,
2007, moi le début dans le secteur, pareil, j'en entends parler. J'ai pu voir la 66, la 51. On voit aussi des services, je pense... à Amandine, des services d'aide à domicile, j'en connais un dans le Tarn, qui fait cohabiter pour un SAD et un SIAD plusieurs conventions collectives. Même là, les employeurs et les financeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord pour niveler vers le haut, évidemment, une convention collective, parce que ces métiers du lien à domicile sont très, très difficiles. On parle d'un virage domiciliaire, et on aspire tous à un virage domiciliaire pour que les gens vivent mieux chez eux, effectivement.
Il c'est mieux que, chez vous, ouais, chez, voilà, comme dit Amandine.
Chez
avec
vous,
son association.
C'est mieux chez nous. Il faut que les moyens humains et que le temps passé, y compris en médiation ou en discussion avec les personnes à domicile, voilà, ce soit du temps reconnu. Et moi, il nous semble à quelques-uns à l'Ardès que la question d'une nouvelle grande loi, si les EHPAD sont en déficit structurel aujourd'hui, c'est que le modèle ne fonctionne plus. Pas le modèle des professionnels qui travaillent sur le terrain
mais le modèle économique.
Donc la question, c'est peut-être au 21e siècle d'avoir une nouvelle loi sur qui régit les principes d'intervention sur tous nos secteurs et qui mette l'humain au cœur. De nos
la loi grand âge a été oubliée pour le moment. La cinquième branche n'est pas financée. Amandine Cuny, dans votre secteur, quelles conventions vos salariés sont dans une convention particulière ou simplement le droit du travail?
La convention de service à la personne.
La convention de service à la personne qui n'est pas la 66
non.
et qui
non.
n'est pas la 51.
Mais on a les mêmes problématiques et dans mes différentes expériences professionnelles de directrice adjointe, directrice ou cadre de santé assimilé. Ce que disent mes collègues, c'est la même chose. On ressent les mêmes problématiques au niveau des conventions collectives.
Bon. Je vous propose de faire une pause parce que la question des salaires, le Ségur, etc., ça plombe l'ambiance, quoi. Hein, et les cadres ont besoin d'être enthousiastes pour continuer à travailler. Alors je vous propose d'aller voir une musique d'ailleurs, une musique d'ici, avec des jeunes artistes qui méritent un coup de pouce. Allons-y. Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec mes invités de l'ARDES, Association régionale des directeurs et directrices de l'économie sociale et solidaire, son président, M. Ludovic Grimat, son trésorier, M. Alain Rouquier, une adhérente, jeune directrice, Amandine Couni. 50e anniversaire, si on revient au programme, vous avez ouvert les inscriptions, Monsieur le Président, tout est ouvert, on peut s'inscrire. Alors dites-nous les choses pratico-pratiques.
Tout est ouvert, vous pouvez vous inscrire, donc on a le site de l'ARDES, hein, donc vous tapez sur un moteur de recherche ARDES Occitanie, vous allez tomber sur notre site, et vous allez après avoir la fiche et pour s'inscrire. Alors il y a différents tarifs pour s'inscrire, il y a un tarif... pour les personnes en poste. Il y a un tarif pour les personnes qui sont d'anciens directeurs, un tarif pour les personnes demandeurs d'emploi.
Et qui sont en repositionnement professionnel.
Voilà, tout à fait. Et c'est gratuit pour les étudiants en cours de formation de directeur ou de directrice.
Vous avez lancé, j'imagine, à travers les réseaux sociaux, l'ensemble donc de votre programme. Alors, revenons à votre programme. Donc, vous avez dit témoignage des anciens... des anciens présidents, toujours la mémoire, et ensuite ?
Et ensuite, donc, il va y avoir l'intervention de Valérie Bergeret et de Christine Vandeville, qui font partie de l'école de l'éléphant, qui se trouve sur Lyon. Et c'est d'anciennes directrices générales. Et elles vont parler de la charge mentale, de l'organisation actuelle, du quotidien de la directrice et du directeur qui croule sous les charges de travail. Ensuite, il va y avoir l'intervention en fin de matinée d'Alain Alba, qui est un ancien directeur général et qui va donc nous parler du sens, quel sens donner à notre métier, vers où va notre métier.
Le sens au travail et le métier, donc d'où la question de la fonction de direction qui vous est chère dans votre projet associatif.
Tout à fait. Et après, donc, Alain, je te laisse présenter l'après-midi, après le repas, une table ronde que tu vas animer.
Donc, une table ronde avec donc les intervenants du matin, sans les anciens présidents, et auxquels se rajouteront donc le directeur de l'Europe Occitanie, une avocate, donc l'avocate qui nous accompagne sur les formations en droit du travail, la psychologue de l'Observatoire à Maroc. Et une docteure en sociologie de l'université de Perpignan, Madame Baldelli, qui était aussi intervenue, elle, sur une formation en 2022, qui était sur le pouvoir d'agir des directeurs, puisqu'on parle du pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Et donc, on avait
Est-ce qu'il y a vraiment du pouvoir d'agir des directeurs? On va aborder cette question.
Donc, elle nous amènera cette question-là. Il y a toujours du pouvoir d'agir des directrices et des directeurs. C'est peut-être quand il y en a moins que la question de la continuité de l'action dans cette fonction-là peut s'interroger, mais il doit y avoir du pouvoir d'action et du pouvoir d'agir, et puis ça fait partie des documents de délégation des directeurs et des directrices. On aura partagé le midi un repas préparé par un ESAT de Montpellier, et puis en fin de journée il y aura l'assemblée générale de l'association, et on aura les festivités le soir.
Dans la soirée. Voilà. Dans les festivités, vous avez prévu quoi?
On a prévu donc un groupe de jazz qui va venir, qui va nous jouer des morceaux sympas, et on a même proposé aux adhérents musiciens de venir avec leur instrument pour faire un bœuf.
Alors voilà, ça c'est le côté convivialité. Exactement. D'une association de directeurs qui veulent le partager. Alors, quand vous présentez ce programme, j'ai l'impression que vous avez des adhérents qui sont engagés. Tout à l'heure, on se posait la question, est-ce qu'il y a moins d'engagement? Est-ce que les professionnels sont engagés ou pas du tout engagés? Alors là, vous...
Moi, je dirais qu'il y a du relais. Il y a peut-être du relais. C'est-à-dire qu'il y a des membres du conseil d'administration qui font une logique de permanence sur un peu les fonctions régaliennes. Et puis, en fonction des projets, des actions, il y a du relais. Et avec Ludovic, on veut remercier ce soir et le citer à Cédric Lise, qui est notre secrétaire général, qui est de Montpellier, qui est la cheville ouvrière de l'organisation au sein du bureau pour ses 50 ans. Et donc, voilà, les collègues de Montpellier et de l'Hérault se mobilisent particulièrement, comme les collègues de Haute-Garonne s'étaient mobilisés il y a 2 ans et demi. Donc, on voit que quand il y a des projets et des actions, actions thématiques sur les départements, eh bien, ça arrive à mobiliser. Et nous, ben, cette mobilisation, elle nous fait plaisir. Et de petites mobilisations additionnées, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières et les grands fleuves.
Alors, voilà. Je vois que vous êtes parti dans une véritable campagne d'adhésion. Et là, vous êtes en train de préparer l'avenir, c'est-à-dire les prochaines 50 années. C'est ça, Président, vous préparez les...
Je sais pas, je pense pas être présent. Mais bon, peut-être mes successeurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lors de l'AG, on préparera le futur de l'association. Et notamment, on va réfléchir sur rénover le projet associatif pour 2025.
Donc, ça veut dire des séminaires, une réflexion avec, j'imagine, les parties prenantes de votre association, un apprentissage à la délibération, très démocratique votre association, très démocratique.
Ah oui, alors ça c'est sûr, c'est une association démocratique, c'est une association dans laquelle l'ambiance est très bonne, donc ça fait partie aussi peut-être des facteurs d'attractivité, mais comme dans les établissements où la cohésion d'équipe est un facteur d'attractivité, et puis je pense qu'on se posera des questions qu'on ne s'est jamais posées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire peut-être différentes formes d'adhésion, peut-être différentes formes d'engagement, peut-être une réflexion sur les tarifs. L'autre jour, à Rieum, on avait des sympathisants qui nous invitaient à tout réfléchir aussi pour peut-être qu'eux trouvent davantage d'intérêt à adhérer à l'association. Et le modèle qui est là depuis 50 ans, ben finalement, il a servi. Il y a plein de choses intéressantes, et notamment sur les référentiels des directrices et des directeurs dans les métiers, que peut-être on doit remettre au goût du jour aujourd'hui, et peut-être des choses qu'on doit complètement inventer.
Est-ce que vous, Monsieur le Président, Monsieur Grimet, est-ce que vous vous présentez directement dans les centres de formation de directeurs, Master 1, Master 2, CAFDES, CAFERUS, pour dire « on est là, venez adhérer, vous allez être diplômé bientôt ». Est-ce que vous faites ce type de démarche ?
Tout à fait, puisqu'on intervient donc à l'Université des sciences sociales, auprès du Master 2 GES, Et on intervient aussi auprès de l'IRTS de Montpellier pour présenter donc l'association.
Et en disant, ne soyez pas seuls, ne restez pas seuls. Dès que vous êtes en poste, venez nous voir. Si vous êtes en poste aujourd'hui comme adjointe ou adjoint, restez proche d'un groupe de réflexion. C'est ça, en définitive.
Oui, le but, c'est ne soyez pas seuls, venez. On vous propose aussi de vous soutenir. On vous propose aussi une veille juridique et de gestion. Vous débutez dans le métier. On a des gens expérimentés qui sont là et qui sont prêts à vous donner des conseils.
Madame Cuny, vous avez envie de rester adhérente là, de cette association. Ce que vous avez découvert pendant cette année, vous satisfait, vous êtes contente de l'ambiance que vous avez trouvée au sein de cette association?
Alors, très contente. Et ben, comme je vous l'ai dit, hein, je suis là aujourd'hui, donc ça prouve que ça me plaît.
Que vous avez envie de vous investir?
Et ben, tout à fait.
D'accord. Peut-être un jour trésorière ou secrétaire, pourquoi pas présidente. Vous voyez, présidente, Madame Cuny?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas, c'est un projet. Monsieur Ruki, vous êtes un professionnel et vous êtes consultant, vous ne travaillez pas dans un établissement. C'est important de vous dire, je ne l'ai pas fait, j'ai manqué à mon devoir. Donc, vous êtes consultant dans le secteur sanitaire et social. Quelle est votre spécialité?
Mais l'analyse des pratiques professionnelles et la supervision, ce qui permet de faire un lien toujours très intéressant entre ce qui se passe sur le terrain, au sein des équipes de professionnels et en lien avec les directions.
Alors, si quelqu'un veut vous solliciter, il peut s'adresser à l'ARDES, c'est ça?
Oui,
il peut. Oui, pourquoi pas?
Il peut taper, comme a dit Ludovic tout à l'heure, s'il tape Alain Rouquier sur un moteur de recherche et médico-social, on devrait trouver des informations.
Nous arrivons, monsieur Grimet, au terme de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir participé. Une journée réussie, ça sera quoi pour vous, pour ce 50e anniversaire?
Ben, une journée réussie, c'est des gens satisfaits, beaucoup de monde et des participants de qualité.
Merci beaucoup à tous les
Merci
trois,
à
Amandine,
Merci.
Alain et Ludovic.
Merci
et
à vous.
Bonne chance et du grand succès pour l'ARDES et vos associations respectives. Sentinelle d'Humanité, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.